Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de l'Union locale de la commune. Oh là 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 là, c'est mal barré.
On a parlé la semaine.
L'Union communiste libertaire. Voilà, vous êtes. On reprend tout de suite. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais la refaire, hein, parce que là, avec le masque, ça a été une horreur. On inscrira ça au bêtisier, évidemment, des émissions Idées Noires. Donc, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires de l'UCL, l'Union communiste libertaire de Lyon. Et on va commencer. Donc, on a repris la semaine dernière déjà, et puis on va continuer en principe tous les mercredis. Je pense que ça sera.
Cette année, ce sera bon, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres choses qui se mettent dessus. Mais voilà, on espère qu'on pourra la tenir comme il faut cette année, cette émission. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer un peu comme d'habitude par les annonces. Alors, je vais commencer par une annonce un peu tardive, puis je reviendrai un petit peu dessus, je pense, dans 15 jours. Mais c'est déjà pour faire passer un petit peu l'information, parce qu'il y a un appel à un contre-sommet Afrique-France à Montpellier les 7, 8 et 9 octobre prochains. Parce qu'en gros, à Montpellier, doit se tenir du 7 au 9 octobre un sommet Afrique-France qui, sous l'affichage de la culture, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et du sport, annonce, entre guillemets, la refondation des relations entre la France et l'Afrique. Cependant, malgré les effets d'annonce du président Macron, l'esprit néocolonial est toujours présent. Sur le continent africain, la France exerce toujours une domination monétaire, économique, diplomatique et culturelle, poursuit des interventions militaires et soutient des régimes qui bafouent les droits humains et empêchent l'émancipation des peuples. Le soutien au coup d'état militaire au Tchad en avril 2021 est un triste exemple de cette politique. La Méditerranée est une frontière coloniale qui a déjà tué cette année plus de 1200 de nos sœurs et frères. Cette frontière poursuit celles et ceux qui parviennent à traverser, celles et ceux qui deviennent sans papier en les privant de tout droit. Donc ainsi, ce sommet arrive dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, où le sentiment anti-français, qui est surtout un sentiment anti-France-Afrique, c'est-à-dire un rejet de ces politiques, grandit dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Un fort rejet salutaire de l'impérialisme français a embrasé les populations dans les rues de Dakar, Bamako et d'ailleurs. Donc par rapport à ce contre-sommet, il y a des demandes déjà qui sont faites, des exigences, comme par exemple l'arrêt de la présence militaire de la France en Afrique, la fin de la politique commerciale néolibérale de la France et de l'Union européenne en Afrique, l'arrêt de soutien aux présidents qui se maintiennent au pouvoir de manière non démocratique, changement de constitution, coup d'État, etc., la fin de l'ingérence française dans les affaires intérieures des pays africains, la véritable fin du franc CFA, l'annulation des dettes odieuses et illégitimes des pays africains, la liberté de circulation et d'installation, et la fin des expulsions depuis la France. Pour porter toutes ces demandes, du coup, il y a un collectif qui s'est monté avec des associations, des organisations politiques, et notamment l'association Survie. L'Union communiste libertaire est signataire de cet appel au niveau fédéral. Et donc, pour porter ces demandes, il y aura d'organiser des rencontres, des débats, des événements alternatifs pendant les 3 jours du sommet. Il sera proposé aussi en septembre-octobre 2021 des temps d'explication et de débat, des temps d'éducation populaire pour s'approprier collectivement les enjeux des relations entre la France et les pays d'Afrique. Et dans les médias, avant et pendant le sommet, on sera exprimé la solidarité de lutte entre les peuples d'Afrique et de France pour en finir avec les rapports de domination, d'exploitation et d'oppression. Pour rappel, Survie, parce qu'on avait déjà parlé dans des précédentes émissions, c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 1984 et qui dénonce toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique et qui milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique. Donc voilà, on en reparlera parce que du coup c'est dans un moment, mais ça passe vite le temps. Et s'il y a des gens, c'est vrai, qui veulent commencer à planifier de se rendre à ce contre-sommet du 7 au octobre, du coup à Montpellier, du coup comme ça l'info est passée. D'autres petites annonces que vous pouvez retrouver, du coup celle-ci sur Rebellion, donc le 10, 11 et 12 septembre, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche, un week-end de commémoration pour Idir, qui est mort le 9 septembre 2020 à la prison de Corba, donc avec le 10, notamment à l'espace communal de la Guillotière la projection d'un documentaire qui s'appelle En dehors. Le 11, un repas convivial. Et le 12, un tournoi de foot et de barbecue. Donc tous les lieux sont indiqués sur Rebellion. N'hésitez pas à y faire un tour. Et le 11 septembre aura lieu aussi une projection discussion autour du livre documentaire Wissam Vérité par le collectif Vérité pour Wissam. Et ça, c'est à l'atelier des Canulars. Et on vous laisse aussi, du coup, aller voir tout ça sur Rebellion. Se rajoute à tout cela, ce samedi aussi, 11 septembre à 15h, place de la Comédie, un rassemblement organisé conjointement par le planning familial et l'Union communiste libertaire, Lyon, donc qui appelle un nouveau rassemblement de solidarité, de soutien aux Afghans et Afghanes et aux réfugiés. Je vous lis du coup le texte d'appel. Vendredi 27 août, nous étions environ 120 à Lyon pour apporter un premier soutien et demander l'évacuation des personnes souhaitant quitter l'Afghanistan qui chaque jour sont de plus en plus nombreuses à se regrouper à l'aéroport de Kaboul. Malgré la violence extrême du régime taliban et l'idéologie réactionnaire qu'il met en place, malgré l'attaque terroriste de l'aéroport de Kaboul qui tua plus d'une centaine de personnes le 26 août, l'État français, considérant que l'évacuation de 2800 personnes est suffisante, a arrêté les rapatriements le 27 août. C'est une ultime manifestation d'irrespect et de négation des droits de tout être humain pour les personnes qui ont servi la France et l'UE, pour les personnes risquant leur vie du fait de leur métier, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Aussi, les témoignages, les appels à l'aide affluent, nous laissant démunis et apeurés pour les Afghans et les Afghanes et n'entraînent aucune réaction de la part du gouvernement français. Dans le même temps, le nouveau régime en place à Kaboul multiplie les exécutions, les enlèvements et déclarations violentes menaçant les femmes, les minorités sexuelles et de genre, les artistes, les militantes et les militants, les journalistes. Faisant preuve d'un immense courage et d'une détermination impressionnante, les femmes ont osé plusieurs fois manifester à Kaboul et ont été violemment réprimées la semaine dernière. Non, la France n'a pas pris sa part, ni elle, ni l'Union européenne. Alors comme le 27 août, comme ailleurs en Europe, nous réclamons aujourd'hui, et donc pendant le rassemblement de ce samedi, un accueil inconditionnel des personnes demandant l'asile en France et en Europe, que les personnes qui souhaitent fuir l'Afghanistan puissent le faire dans le pays de leur choix, dans des conditions d'accueil dignes et humaines, un accès au logement, à la santé et à la formation, que toutes les personnes afghanes sur le territoire français et européen soient immédiatement régularisées, quelle que soit leur situation administrative, que cessent immédiatement les reconduites à la frontière, que les ONG et les militantes et militants en Afghanistan soient soutenus, pas par des beaux discours, mais par les moyens concrets d'une diplomatie au service des droits humains et non des intérêts économiques, et une réforme radicale des conditions d'accueil et d'asile en France, car les frontières tuent chaque jour. Donc droit d'asile pour les Afghanes et les Afghans, droit d'asile pour tous et toutes, donc avec des premiers signataires, donc je disais le Planning Familial 69 et l'UCL Lyon. On peut rajouter à ça du coup hier, parce que voilà, l'ONU, etc., attendait de savoir un petit peu quel allait être le gouvernement, quel allait être annoncé par les talibans. Bah, attention, ça a été très clair. Hein. Déjà, zéro femme. Ils avaient dit qu'il y aurait aussi une diversité au niveau des ethnies, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sont que des cadres de l'organisation qui sont mis au gouvernement, donc ce qui peut malheureusement laisser penser au pire pour toutes celles et tous ceux qui vont s'opposer ou qui voudraient s'opposer à ce régime. Ce qu'on avait fait au rassemblement du 27 août, c'est qu'on avait lu quelques témoignages du coup de personnes. Alors on suppose que la situation a malheureusement empiré depuis que ces témoignages ont été écrits, ont été relatés dans divers journaux. Et on va vous en lire quelques-uns parce que c'est toujours important parce qu'on parle beaucoup de chiffres, mais du coup quand on parle de personnes et qu'on peut du coup diffuser ces témoignages, bah, on se rend compte que du coup ce ne sont pas des chiffres, mais il y a des personnes, et quand on dit qu'il faut accueillir le plus de monde possible, c'est pas pour rien. Donc un exemple parmi tant d'autres, donc, par exemple Katara qui vit dans l'ouest de l'Afghanistan. Cette femme de 27 ans, elle évoque fièrement son master obtenu après plusieurs années d'études passées à l'étranger. Elle est très impliquée dans la vie sociale de sa ville, elle a été aux côtés de femmes afghanes qui souhaitaient notamment monter leur entreprise. Mais avec la prise de pouvoir des talibans, tous ses projets ont été réduits à néant. Elle est passée de statut de femme diplômée et indépendante à celui de recluse. Donc elle dit « Ça fait plus d'une semaine que je ne sors plus, je m'ennuie, je tourne en rond, je dors mal, j'essaie de regarder des films, de lire, mais rien n'y fait, impossible de me concentrer. On ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent le contrôle de la ville et du pays aussi vite. Plus personne ne met le nez dehors ou travaille, encore moins les femmes. Les seules sorties servent à faire les courses dans les magasins de première nécessité, encore ouverts quelques heures par jour ou pour aller chez le médecin. Les talibans sont partout. Si on les croise dans la rue, on ne sait pas comment ils peuvent réagir. Ils ont l'air incontrôlables. J'ai déjà reçu un premier appel masqué. Le taliban m'a dit « J'ai vérifié toutes tes communications téléphoniques. Tu es en passe des centaines. C'est mauvais pour toi. J'ai ton adresse. Je connais tout de toi. Considère ça comme un avertissement. » Voilà, après, elle dit qu'elle a eu la chance d'étudier à l'étranger. J'ai vu comment d'autres pays fonctionnaient. Ça m'a ouverte sur le monde. Mais j'ai toujours voulu rentrer et aider les femmes de mon pays, contribuer à son développement. Parce que je me disais que si les gens comme moi partaient, qui contribuerait du coup à son développement? Nous, les jeunes Afghanes, on a fait tout ce qu'on a pu pour nous élever intellectuellement, obtenir des diplômes. Pendant 2 décennies, nous avons pu travailler, avoir de l'espoir, des rêves. Et elle dit, voilà, moi, je ne peux pas vivre sur le régime taliban. J'ai rempli il y a 2 semaines un formulaire pour obtenir un visa. Mais c'est une procédure qui est longue. Avant, il fallait déjà 3 ou 4 ans pour que cela aboutisse. Peut-être qu'aujourd'hui, ça prendra 6 mois, 1 an, mais c'est trop long. Du coup, elle a pensé à se rendre à l'aéroport de Kaboul pour quitter le pays, mais elle a appris du coup qu'il y avait des milliers de personnes là-bas et que quelques-unes sont mortes écrasées par la foule ou sous les balles des talibans. Donc elle n'a plus d'autre choix que d'attendre, parce que les talibans ne lui permettront jamais, jamais d'enseigner. Un deuxième témoignage, c'est celui de Layla, qui a 27 ans, qui elle est à l'origine de la province de Kunar, dans l'est du pays. Elle a grandi à Kaboul, où elle a fait ses études secondaires avant de s'envoler pour l'Inde. Donc elle évoque fièrement aussi son master d'informatique, décroché à l'université de New Delhi. Avant le basculement et la prise de pouvoir des talibans, elle travaillait comme maîtresse de conférences dans une université privée à Kaboul, au département informatique. Donc elle décrit une vie tout à fait normale, où elle se sentait libre, et notamment militait pour le droit des femmes au sein du Movement of Change for Afghanistan. Elle témoigne dans l'espoir que le monde entende leur voix. Donc voilà, elle raconte, voilà, ils ont pris Kaboul le 15 août, c'était un dimanche. Je suis allé à l'université, j'ai donné un cours de 9h à 10h30, et à partir de 11h, j'en avais un autre. Mais quand j'ai terminé le premier, tous mes collègues disaient que les talibans allaient prendre le contrôle de la capitale ce jour-là. Tout le monde avait peur, me disait de rentrer à la maison. En l'absence de moyens de transport locaux disponibles, j'ai dû rentrer chez moi à pied. De nombreuses personnes marchaient dans les rues, visiblement inquiètes. Ça fait désormais plus d'une semaine, c'était à l'époque, c'était fin août, mais je n'arrive toujours pas à croire que ces gens ont repris notre pays. Je ne peux pas dormir ou bien manger. Voir les personnes à l'aéroport essayer de s'échapper et la situation dramatique dans laquelle est plongé mon pays bien-aimé me tue de l'intérieur. J'ai toujours l'impression que c'est un mauvais rêve, que je vais me réveiller et que tout va être normal. Mais non, malheureusement, c'est la réalité. Voilà, après ce jour, ma vie a radicalement changé. Je peux continuer de travailler, mais les talibans ne me permettront jamais d'enseigner. Pourquoi? Parce que je suis une femme et que la majorité de mes élèves sont des jeunes hommes. Selon eux, il n'est pas permis pour moi de leur enseigner. Je n'ai pas pu remettre un pied à l'université depuis le 15 août. Ma sœur cadette, étudiante en médecine, est aussi à la maison. Elle pleure en se disant qu'elle ne pourra plus jamais retourner à l'université. Elle est née en 2001 et avait l'habitude de nous dire qu'elle avait beaucoup de chance, car au moment de sa naissance, le régime des talibans était terminé. Elle ne se doutait pas qu'il reprendrait le dessus. Voilà, elle sait que la situation est affreuse pour tous les Afghans, hommes ou femmes, vieux ou jeunes. Mais c'est plus dur encore pour nous, la population féminine. Nos droits fondamentaux sont en train de nous être enlevés. Avant que les talibans prennent le pouvoir, je n'avais par exemple ni burqa ni hijab noir. Ma mère a été obligée de m'en acheter un et maintenant je dois le porter chaque fois que je sors. Ils sont toujours très durs et violents envers les femmes. Elle dit qu'elle n'a aucun espoir, que sa seule option est de fuir le pays vers un endroit où elle et sa sœur pourront vivre une vie paisible, heureuse, aux côtés de leurs parents. Quitter son propre pays n'est jamais facile, dit-elle, mais lorsque toute sa vie et sa carrière sont en danger, la meilleure option est de partir. Je n'ai pas pour l'heure aucune piste pour fuir, rien de plus que mes documents valides. Par ce témoignage, j'appelle à l'aide. Des témoignages comme ça, il y en a pas mal. Je vais encore peut-être en lire un. On a encore petit peu le temps sur cette première page. Donc c'est Zahar qui a 23 ans. Elle est originaire du Nangarhar, à la frontière du Pakistan. Pareil, master d'économie à l'université de Delhi, à distance. Une vie paisible, très optimiste par rapport à l'avenir. Mais lorsque les talibans ont pris cette ville proche de la frontière iranienne, 3 jours avant Kaboul, l'étudiante a été contrainte de fuir avec ses parents, docteurs, laissant derrière elle ses rêves pour son pays et pour son peuple. Voilà, au moment où elle entendu que l'Afghanistan était tombé aux mains de talibans, elle s'est remémoré les récits de leur barbarie, de leur meurtre, de leur violence envers les femmes et les filles. Et depuis qu'ils ont repris le pouvoir, ils doivent accepter constamment de changer d'endroit et de rester cachés. C'est devenu insupportable. Voilà, il devient chaque jour plus difficile de résister et de survivre. Et comme nous ne cessons de changer d'endroit, j'ai également difficilement accès à l'électricité. Il y a une bonne connexion Internet. Le pays est en proie au chaos. Donc elle aussi, elle sort le moins souvent possible, une seule fois pour faire les courses, elle se sent prisonnière, et tout ce qu'elle peut faire, c'est rester à l'intérieur. Elle dit que les femmes sont menacées, qu'elles soient mariées ou non, mais pour les célibataires comme elle, les défis sont encore plus grands. Certains disent que les talibans prennent des filles célibataires comme esclaves sexuelles ou les épouses de force. Nous sommes terrifiés d'entendre cela. De plus, en tant que femmes non mariées, nous avons normalement la responsabilité de gagner notre vie. Mais comme les talibans ne permettent pas aux femmes de travailler, nous sommes nombreuses à subir des pressions financières. Mes parents font de leur mieux pour nous protéger, mais à un certain stade, même eux sont impuissants. Donc voilà. Après, il y avait un autre témoignage qui était assez intéressant. C'était plutôt une avocate, du coup, qui s'appelle Caroline Mekari. Qui disait du coup que depuis le fiasco du retrait de l'Afghanistan, elle avait rejoint le collectif des avocats, des interprètes et auxiliaires de l'armée française. c'est-à-dire les Afghans qui ont travaillé pour la France et qui aujourd'hui, de ce seul fait, sont en danger de mort. Il y a une dizaine de jours, ils étaient autour de 150. Pour eux, on demande au ministère de la Défense la protection fonctionnelle, ce qui leur permet de venir en France et de se voir vous remettre un titre de séjour, mention ancien combattant. En pratique, derrière les beaux discours politiques, l'administration fait tout pour que cette protection fonctionnelle ne soit pas accordée. C'est assez immonde. Seule une quinzaine d'entre eux ont pu matériellement être rapatriés. Les autres sont comme abandonnés, puisque outre le fait qu'ils n'ont pas toujours la protection fonctionnelle, il ne vous a pas échappé qu'il n'y avait plus de points aériens. Bien sûr, le collectif va tout faire pour déployer les moyens de droit, politiques et diplomatiques pour tenter de les faire venir. Voilà, elle voulait partager avec nous ce ne serait-ce que la réaction de l'un d'eux. Voilà, qui a été transmis via une collègue avocate à elle, qui témoigne de la détresse dans laquelle sont ces femmes et ces hommes. Et donc cette personne dit « Vous nous conseillez de nous cacher. Pensez-vous que si nous avions une option, nous demanderions de l'aide de ceux, les politiciens, qui nous ont mis dans cette situation? Ils nous ont trahis. Pour les politiciens, la vie d'une personne n'a aucune valeur. Ils ont fait ce pour quoi ils sont venus et ils ne soucient que pas du gâchis qu'ils laissent derrière eux. Je ne sais pas comment le dire à mes parents, ils sont assez vieux et ne supporteront pas l'angoisse d'être tués. Pour chaque âme gâchée, la France est responsable. La France est responsable de notre mort et celle de chacun des membres de notre famille. » Donc voilà, c'est vraiment aussi une des raisons du rassemblement là qui est de nouveau organisé samedi. C'est aussi pour pointer effectivement toutes les responsabilités de la France dans ce drame. Et du coup, le fait qu'elle n'ait accueilli que très peu de personnes par rapport à ce qu'elle pourrait. Voilà. Après, il y a différentes choses qui sont faites, que vous pouvez trouver aussi sur le net, notamment ce qui s'appelle Afflux d'espoir Afghan Woman, qui est organisé par Urgence Afghane Enveloppe, donc qui demande aussi l'asile sans condition, bien évidemment, et qui ont fait une cagnotte en ligne. Vous tapez Afflux d'espoir, vous allez trouver ça, qu'elles vont redonner après des associations françaises, notamment Utopia 56 et Paris d'Exil, et aussi pourquoi pas une ou des associations indépendantes basées en Afghanistan. Donc voilà, donc c'est cette cagnotte pour les femmes afghanes et leurs proches. Voilà, pour l'instant il y a 7 400 euros, j'ai regardé tout à l'heure sur cette cagnotte. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, tout est bon pour les aider. Il y a aussi pas mal de témoignages, vous les lirez, hein, vous les trouverez, de musiciens et de musiciennes afghanes et afghans, parce que vous savez du coup que la musique, eh ben, elle n'est pas permise par les talibans, et que tout ce qui a été mis en place depuis des années risque de s'effondrer totalement. Donc voilà, pour cette petite page. Vous pouvez aussi retrouver, je pense qu'il a été lu par notre camarade la semaine dernière, le communiqué fédéral du coup qui avait été écrit par l'Union communiste libertaire suite à la chute de Kaboul et de l'Afghanistan. Voilà, je vous invite à aller sur le site si vous voulez le retrouver, et puis on vous invite, voilà, nombreux et nombreux, samedi 15h place de la Comédie, pour ce rassemblement donc organisé par le Planning Familial et l'Union communiste libertaire Lyon. Voilà, on était 120 fin août, voilà, c'était encore les vacances. On espère qu'il y aura beaucoup 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 plus de monde. Il est urgent aussi de montrer, voilà, qu'il y a du soutien. Ça peut faire du bien si les images peuvent arriver jusqu'à là-bas, ça peut faire du bien aux assos qui vont se bouger là pendant des mois et des mois pour essayer de faire du mieux possible. Et puis on organisera sûrement d'autres choses derrière. Voilà, on vous tiendra au courant, sûrement selon les besoins des collectes ou autres, via notamment l'association PES, voilà, qui est hébergée à la Plume Noire. Voilà, on vous tiendra au courant de tout ça, et venez samedi. Voilà, c'est assez important, très important de venir à ce rassemblement-là, de montrer qu'il y a du monde, de faire un peu de bruit. Ça fait toujours du bien aux personnes qui sont en proie au chaos là-bas.
Merci. Petite musique, donc derrière ça, la semaine dernière, on a évoqué Georges Brassens avec, c'est un anniversaire cette année, les 100 ans de sa naissance. Il est né en 1921, rendez compte. C'est l'année aussi de Kronstadt, hein, pour dire que l'insurrection à Kronstadt. Et puis en même temps, il va nous interpréter une petite chanson bien connue, je pense, qui va très bien, à mon avis, avec ce que tu viens de dire. Voilà, et bonne écoute.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers, tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Bonsoir, vous êtes toujours rebonsoir à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et après cette pause musicale, nous allons enchaîner avec une première page de lutte sociale.
En effet, donc on va attaquer le mois de septembre, du moins fin août et le début septembre. Et il s'est passé à Lyon, donc ce fin août, c'était le 30 exactement, début septembre aussi, donc le 3. C'est les agents de la ville de Lyon en bagarre contre leur patron vert. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à Lyon? Eh bien, c'est l'allongement du temps de travail et la mise à mal du droit de grève. Mais oui, on y vient, tout doucettement. On y vient. Mais c'est pas lui, c'est l'autre, le gouvernement. Et que dit le gouvernement là-dedans? Un gros point d'interrogation. Enfin, c'est précis quand même. Alors, il y a une opposition farouche de l'intersyndicale en force au nombre d'organisations syndicales, donc la CGT, l'UGICT, CGT, Sud, l'UNSA, la CFDT, la CFTC et FO. Contre la loi de transformation de la fonction publique qui date quand même depuis 2 ans, puisqu'elle est sortie en 2019, retenue donc de 1/30 du salaire. Info à la hiérarchie 48 heures à l'avance, de même pour la reprise du travail à 24 heures. Assurance de la pour l'assurance de la continuité du service public. D'un seul coup, on bichonne le service public auquel on veut faire la peau depuis tant d'années. Alors ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est un petit extrait que j'ai fait, je n'ai pas la prétention de tout dire, évidemment c'est plus précis que ça, plus long. Eh bien ce qu'il faut retenir, c'est l'encadrement du droit de grève en janvier 2022. L'allongement donc du temps de travail à 1700 heures par an, la transformation donc de la fonction publique Et si vous vous rappelez un petit peu, si vous avez vu un peu les informations ces temps-ci, et vous avez trop de grèves dans les écoles de Marseille. Bon, enfin, ça concernait Marseille, mais enfin, c'est valable aussi certainement pour Lyon. Donc ça, c'est... Qui a dit ça?
C'est notre cher président, monsieur.
Macron, lors de sa visite, bien sûr, à Marseille.
Ce qu'il faut juste rajouter, du coup, c'est que là, donc, ça se fait sur une ville... de couleur écologiste, oui. Et que c'est un député de la France insoumise qui défend cette loi bec et ongles, donc qui va mettre un gros danger sur ce personnel-là déjà assez précaire, qui du coup pouvait, quand elle le souhaitait, pour des raisons très justes, se mettre en grève et se voir décompter que quelques heures, des heures effectives de grève, et qui vont devoir maintenant se faire sucrer une journée entière, si jamais ils se mettent en grève, ne serait-ce qu'une heure.
Voilà. À Paris, dans le 9e arrondissement, sont les galeries Lafayette, au rayon grève. Ben, c'est Sud qui propose, et les salariés, bien sûr, de stopper tout contre le pass. Exiger ce pass aux travailleurs et travailleuses en cette fin août, ceux et celles qui ne s'exécutent pas, eh bien, c'est la trique, hein, tout bonnement. Hein. Suspension du contrat de travail, pas de salaire. Plus fort encore, la direction a organisé et a mis en place des entrées spéciales pour ceux et celles qui étaient vaccinés ou testés PCR négatifs. Ça avance, je vous le disais. Hein. À Thionville, en Moselle, c'est l'hôpital Bel Air avec une grève des salariés de la société de nettoyage Honnête qui ont donc à la charge du nettoyage. Alors, piquet de grève le 13 août pour quelques heures à 30 personnes à 6 heures du matin avec EFO Santé à la tête. Dénonce donc les conditions de travail du nettoyage dans les locaux dédiés aux soins. Dégradation aussi donc de ses conditions de travail depuis le Covid-19. À Villers-lès-Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle, chez RTE, c'est le réseau des transports d'électricité pour le public, issu du découpage savant de EDF, selon les directives européennes. Grève le 31 août, c'était la cinquantaine de participants qui étaient dans l'inquiétude d'une entourloupe. En 2018, la direction avait juré de maintenir un service dispatching de 40 salariés. Eh bien, la disparition est imminente. Décision qui a été prise fin juin. Alors, pas sympa, a dit la CFDT. 350 salariés dans la méfiance, ça fait une grève. Ils assurent les travaux, ces salariés, ils assurent les travaux du réseau et la maintenance. Il n'y aura pas de licenciés, pas de mobilité. Le site sera préservé. S'il y a des menteurs, on sait où ils sont. Ils sont à la direction. À Montpellier, ce sont les ATSEM. Alors, qui monte au créneau. Alors, EFO et soutien aussi des parents d'élèves, enseignants, syndicats, étudiants, etc., qui sèment la colère ici. C'est 1707 heures de travail en lieu et place de 1537 auparavant. Ils dénoncent la pénibilité de leur situation professionnelle aux 1000 charges et aussi ils dénoncent les TAC. TAAC, c'est le temps d'accueil et d'animation. Les agents, les ASEM, c'est les agents territoriaux spécialisés des écoles qui exigent une entrevue avec la mairie pour un dialogue. Je leur dis bonne chance.
Ouais, sachant que les ASEM, là, c'est un peu les assistants des enseignants-enseignantes, notamment en maternelle, et que c'est un rouage essentiel pour faire tourner la classe correctement. Mais effectivement, elles ont déjà des horaires assez dense. Elle commence tôt le matin, elle continue des fois entre midi et deux, elles finissent plus tard aussi assez souvent. Elles ont moins de vacances aussi que les enseignants et les enseignantes. Et il y a vraiment un travail de fond qui est fait. Et c'est quand même un métier assez précaire au niveau de la paye et qui est sans cesse attaqué malgré l'importance qu'elles ont dans les écoles.
Bien. Alors, en ce début septembre, donc c'était le 4, à Tôt. Tôt, c'est les temps de Tôt. Hein, tout le monde connaît ça, je suppose. C'est à côté de 7. C'est 7, hein, d'ailleurs. Les salariés de Keolis, cette fois, donc c'est dans les transports en commun, qui craignent pour leurs acquis sociaux des bruits courts. Donc, grève avec EFO, la CFDT, et 100% des titulaires. Alors, des titulaires, ça veut dire quoi ? C'est qu'ils ont des CDI. Tous les métiers confondus étaient en grève contre le désengagement de l'agglomération opération lors de la prochaine délégation de services publics, DSP, dont Keolis s'est spécialisé dans le transport de personnes, bus, métro, tram, car, vélo, parking aussi, navette, funiculaire, trolley, etc., etc. Alors rien de ne lui échappe évidemment à Keolis. Et puis aussi il y a les villes implantées dans ces villes de Bordeaux, de Rennes, de Lyon, de Lille, de Dijon, de Stockholm, de Manchester. Issue de cette société qui est issue de sociétés de transport, la SNCF est actionnaire à 70%. Après maintes manipulations d'associations et d'accords, etc., etc. Encore une fois. Le 5 septembre, ben, c'est l'intersyndicale du Bas-Rhin, était composée donc de l'UNSA, de la CGT, de FO, donc de la CTBR, c'est la compagnie de transport du Bas-Rhin, avec une grève le 6 septembre. Alors la peur des employés, les craintes, on va dire, de perdre des droits, c'est la saison, comme les feuilles mortes. Alors ces transferts d'accords d'entreprises qui mettent le feu, ben ils risquent tout simplement de passer à la trappe, mis à mal par la transformation de la compagnie en 2019 en SPL, c'est-à-dire la société publique locale, 80% qui sont détenus par la région, 20% par l'Eurométropole de Strasbourg. Alors ici, on est dans le Grand Est. Ça signifie pour les employés les pertes de droits de la convention collective des transports. 98% de grévistes, il y a 130 salariés. Même motif, même punition, c'était le 1er septembre à Metz. Grève perlée avec la CGT, Sud, la CFDT, l'UNSA pour débrayage d'une heure, une heure seulement en septembre. Alors ici, c'est les salaires, les conditions de travail et 18 points qui suivent, mais je ne les ai pas notés parce que c'était un peu long, dans cette liste donc du réseau Métis, qui appartient aussi, devinez à qui ? À Keolis et Metz Métropole. Idem à Mulhouse, grève chez Solea, réseau urbain, mais là c'est plus Keolis, c'est Transdev, un autre à l'identique, 88%. Bus, tram, il y a eu une grève aussi donc de 2 heures, salaire gelé et risques psychosociaux. Et c'est reparti aussi, c'était le 6 septembre à Échirolles, une grève des enseignants et des enseignantes du collège Pablo Picasso, établissement en Z, zone d'éducation prioritaire. On leur chourave des classes en 5e et 6e, ce qui va augmenter le nombre d'élèves par classe. Il et elle donc étaient 21 élèves par classe. Ça allait très bien, d'ailleurs, les profs faisaient du bon boulot. C'était trop beau pour les patrons de l'éducation publique, d'où cette colère d'entrée, en prenant en compte donc les élèves aussi handicapés, sans personnel AESH, infirmières, psy scolaire, assistantes d'éducation, etc., etc. Ils ont eu aussi un soutien ferme des parents. Même souci dans les départements de Loire-Atlantique. Il y aurait, selon l'ADAPE, donc l'association départementale, etc., je l'avais dit la semaine dernière, 900 jeunes en situation de handicap, en situation précaire pour leur scolarité. Pourtant, nos gouvernants avaient promptement, à une époque, avancé sur le droit à l'éducation pour tous et toutes. Il faudrait, s'il y a besoin, d'y inclure évidemment le ministère et le ministre de l'Éducation nationale, va sans dire, pour étoffer donc son éducation ou parfaire son éducation. À Rennes, geste de solidarité de 150 personnes envers la quarantaine d'enseignants et d'enseignantes solidaires de leurs collègues que la direction du lycée Jean Massé souhaite muter plus loin pour faits syndicaux et militants. Mais le plus loin possible, ça serait pareil. C'était le 3 septembre, avec lycéens, lycéennes et parents, la diff de tract pour expliquer, car il y a encore vraiment besoin d'expliquer. Quelques mots et quelques news, comme promis, sur cette lutte des salariés ADP dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors, on n'avait pas eu de nouvelles de ces derniers temps, mais ça y est, c'est fait. Donc, ADP, c'est les aéroports de Paris, hein, Orly et Roissy, pas le Bourget, c'est Orly et Roissy. Après, donc, la grosse mobilisation du mois de juillet, grève, manifestation, occupation, blocage et les flics. Un plan de la direction pour récupérer 80% du chiffre perdu à cause de la baisse du trafic aérien, qui consistait donc à la suppression de primes, le départ aussi arrangé de salariés signés par l'intersyndicale, 1150 départs, dont 700 non remplacés. La note est salée. Au 8 septembre, contre ce coup de pied de l'âne, ben, la refus catégorique des grévistes, la direction sort l'arsenal persuasif, du moins le croit-elle. Chaque salarié a reçu un avenant, un avenant, je suppose que c'est au contrat de travail. Oui. Le salarié dispose d'un mois pour le contester, mais le contester, c'est s'exposer, se risquer à un licenciement. Donc la messe est dite, les actionnaires prient évidemment leur grand dieu capitaliste d'éviter la catastrophe de la chute des dividendes. Alors voilà, ils auraient installé des bénitiers à l'entrée de l'aéroport. Non mais ça c'est moi qui l'ai inventé.
Je pense bien.
En fait des bénitiers c'est des petites pompes pour... Voilà, c'est tout. Je voulais finir sur une petite note rigolote.
D'accord, d'accord.
Je pense que ça marche, par contre. Moi oui.
Peut-être pas vérifié mais... On verra.
Voilà pour cette première page donc de lutte sociale.
Ok, donc on va enchaîner, on va parler, je sais que le camarade la semaine dernière l'a fait un petit peu, on va peut-être le prendre sur un autre angle du coup, sur ces manifestations anti-pass sanitaire. Voilà, la mobilisation continue, toujours du monde dans les rues, toujours malheureusement beaucoup de monde dans les mobilisations initiées par l'extrême droite. On a eu encore l'exemple à Lyon. Ce samedi, avec donc deux manifs différentes, une partant du Vieux Lyon, appelée voilà, par des camarades du coup qui a réuni environ 2000 personnes, mais de l'autre côté, une autre manifestation également avec 2000 personnes aussi, mais par une manif initiée par les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot. Donc du coup, c'est très compliqué, vous l'avez vu de toute façon, de toute manière, que ce soit avec vos amis, vos proches, vos familles, des fois au travail, un peu de partout, d'aborder ce sujet-là. Voilà, notamment quand on est pour la vaccination, comme notre organisation a communiqué dessus, mais contre l'obligation et contre le pass sanitaire, et que ça engendre des discussions très compliquées. Du coup, il faut toujours faire de la pédagogie, essayer d'expliquer le mieux possible les choses sans braquer les gens, mais ce qui est très compliqué. Et du coup, voilà, on voulait saluer le travail qui a été fait par Sud Éducation. Voilà, qui a sorti un 8 pages sur le sujet, notamment pour expliquer comment l'extrême droite se nourrit du complotisme, des mouvements anti-vaccins et du covido-scepticisme. Donc je vais vous lire quelques petits extraits de ce fiche qui sont assez intéressantes et qui permettent des fois, enfin, assez facilement de contrer, pas forcément de contrer, mais d'expliquer aux personnes, voilà, qui sont toujours dans la crainte de pas mal de choses par rapport au vaccin, bah déjà de leur dire ce qu'il ne faut pas écouter, sur quel site il ne faut pas aller, de faire attention à certaines personnes pour déjà se faire un avis beaucoup plus neutre sur la question. Parce que la crise sanitaire du coup et la mauvaise gestion par le gouvernement constituent depuis maintenant le printemps 2020 un terreau extrêmement favorable à la propagation des fake news et des théories complotistes. Ces dernières profitent directement à l'extrême droite en lui permettant d'imposer sa vision du monde. Les gouvernements d'extrême droite ont adopté une posture négationniste, c'est-à-dire qu'en refusant le danger du virus, qui a été le cas au Brésil, et le décès d'un million de personnes, dont 64% de personnes noires, est clairement défini par le gouvernement de nettoyage ethnique. En France, les thèses conspirationnistes ont explosé à l'occasion du mouvement de contestation du pass sanitaire et de la vaccination à l'été 2021. Parce qu'il est vrai que d'habitude, notamment sur Lyon, mais ça se fait dans d'autres villes forcément, quand l'extrême droite veut manifester, il y a une opposition, il y a des choses qui sont organisées, et généralement, enfin, de quoi c'est le cas depuis de nombreuses années à Lyon, elles ne peuvent pas manifester. Au pire du pire, c'est un rassemblement, mais avec un contre-rassemblement dessus, qui permet de limiter les mouvements. Mais là, depuis deux mois, c'est un peu ouvert, open bar, et toutes les semaines, ils manifestent, ils prennent des forces, ils recrutent, et ils se sentent des ailes poussées. Donc en fait, ce qu'a rappelé l'Union syndicale solidaire, bien évidemment, un peu comme d'autres syndicats, c'est qu'elle s'oppose au pass sanitaire mis en place par le gouvernement, les inégalités qu'il crée ou aggrave, et que cette décision résulte de fait de l'échec du gouvernement à empêcher les vagues successives, en partie faute de moyens pour l'hôpital et de mesures sociales et sanitaires pour limiter la propagation. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait du coup une espèce de petite cartographie d'explication de la nébuleuse anti-vax, du coup, qui est même assez présente dans certains quartiers très proches d'ici. Il y a qu'à voir comment ça se passe dans les écoles de temps en temps. Et donc du coup, ils ont fait une petite étude à la loupe de la fachosphère et de la complosphère. Donc du coup, quelles sont les personnalités principales, hein, parce qu'il y en a d'autres qui participent aujourd'hui au mouvement anti-vax. Donc il y a les forces politiques d'extrême droite. Donc il y a Florent Philippot, ex-FN et fondateur du mouvement d'extrême droite Les Patriotes, qui cherchait un petit peu un avenir et qui a depuis des mois sauté sur cette occasion-là et qui se fait le porte-parole un petit peu du coup de ce mouvement. Il est très proche de l'avocat Divisio et ils dénoncent ensemble cette fameuse terme qu'ils ont inventé, corona-folie. Merci pour tous les morts de la maladie et de toutes les mesures sanitaires destinées à lutter contre l'épidémie. Bon, il n'est pas cette posture-là il y a un an et demi, mais du coup, pour se faire un peu de monde autour de lui et de se faire un nom, parce qu'il était quand même au bout du gouffre, ce Florian Philippot, hein, assez ridicule, manque de charisme, etc. Et que là, du coup, il a pu, malheureusement, grâce à cette mobilisation, se refaire un nom. On a aussi François Asselineau, président du mouvement souverainiste et conspirationniste l'UPR. Il fait la promotion d'un médicament jugé inefficace par les médecins, l'ivermectine, et il minimise la dangerosité du virus. Bon, cette personne, Asselineau, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, hein, l'UPR. L'UPR qui est pareil, hein, on avait réussi, quand je dis « on hein, », c'est le mouvement social dans son ensemble, mais aller virer de nos manifs, notamment syndicales, à faire qu'ils ne se sentent pas en sécurité et qu'ils dégagent de là. Ils avaient repris un petit peu du poil de la bête sur certaines manifestations gilets jaunes, et là du coup pareil, c'est open bar, puis on l'avait vu pendant l'été quand des personnes, là c'était des syndicalistes je crois à Paris, qui essayaient du coup de le virer, de lui faire comprendre qu'il n'est pas bienvenu, et ben il avait tout de suite la défense de beaucoup de manifestants et manifestantes, parce que du coup les gens sont plutôt on peut marcher tous ensemble malgré nos différences, ce qui peut mener à des choses très dangereuses. On a aussi Jean-Frédéric Poisson, ex-suppléant de Christine Boutin, on la présente plus, la Manif pour tous, et son parti via la voix du...
On la voit plus.
Du coup on la présente plus, et heureusement on la voit beaucoup moins qu'avant. Ouais. Et sont partis donc via la voix du peuple, le vaccin a tué quand même des centaines de personnes en France, il minimise les mortes du Covid. On a aussi Martine Vonneur, cette députée exclue de La République En Marche. Donc elle milite contre le masque, les vaccins à ARN messager et pour l'hydroxychloroquine, pourtant jugée inefficace par plusieurs études. On a aussi les catholiques intégristes avec le mouvement Civitas, anti-avortement et acteur de la Manif pour tous. Il raconte que la vaccination a fait 18 000 morts et son leader Alain Escada appelle à manifester contre la tyrannie démocratique avec les pancartes antisémites qui, avec un point d'interrogation du coup forcément, les responsables sont montrés du doigt. Ce que veut dire Civitas, c'est pareil, on les avait jamais trop vus sur Lyon et là, paf, sur une manif, ils sont apparus. Alors ils se sont pris quelques baffes a priori et tant mieux il y a 15 jours ou 3 semaines. Comme ce samedi d'ailleurs sur la Croix-Rousse. Mais voilà, il y a des autocollants qui fleurissent un peu de partout. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant ce mouvement-là et qui laissent craindre du coup vraiment une résurgence de tous ces mouvements.
Mais c'est un tremplin, quoi.
Exactement. Et donc ces personnes-là et tous leurs militants et militantes et tous leurs proches, bah voilà, ils sont soutenus par des médias. Et on va en lister quelques-uns parce que du coup c'est justement dans ce genre de piège qu'il faut éviter de tomber et que vous pouvez éventuellement dire quand on vous sort des arguments, on va dire bah en fait mon gars si tu as trouvé ça sur tel média, bah pose-toi des questions et regarde qui sont derrière ces médias-là et tu comprendras un peu mieux les choses peut-être. Donc ces médias sont France Soir, qui donc France Soir avant c'était un média qui était reconnu, qui était objectif et qui du coup a coulé. Et l'entité France Soir a été repris via un site et qui est un média complètement conspirationniste et qui est une tribune pour les souverainistes. Pardon. Il y a aussi le site Réinfo Covid, qui fait beaucoup parler de lui. Égalité et réconciliation, fondé par Soral, militant d'extrême droite, antisémite, négationniste et conspirationniste. Bas les masques, hein, du coup, qui est sur YouTube. Profession gendarme, qui relaie les thèses complotistes sur la Covid, sur le sida ou sur les vaccins qui sont des machines à tuer. Sud Radio, qui invite des personnalités anti-vax à parler quotidiennement. Les sites pro-russes Sputnik et Russia Today RT qui reprennent souvent des propos complotistes tenus d'ailleurs. Et bien évidemment CNews qui ouvre son antenne à l'extrême droite et aux conspirationnistes de manière quotidienne. Ne vous faites pas de mal, hein, ne branchez pas votre télé sur CNews, hein, ça fait mal à la tête. Notamment le soir où on enchaîne un Pascal Pro, un pseudo... spécialiste politique, était quand même commentateur de foot à l'époque, et bien sûr Zemmour, qui malheureusement devrait se lancer dans la campagne présidentielle, vu comme c'est parti. D'ailleurs, il y a quelques affiches qui commencent à fleurir sur Lyon, n'hésitez pas et faites-vous plaisir en les arrachant. Tout ce beau monde s'inspire évidemment de ce fameux pseudo-film Hold Up, qui a compté au moins une dizaine de millions de vues sur les réseaux sociaux. Son contenu sensationnaliste lui a permis de faire le buzz sur Internet. Et Hold Up, donc, c'est un film qui était diffusé sur Internet à partir de novembre 2020. Et son réalisateur, Pierre Barnérias, il est connu pour avoir réalisé plusieurs documentaires pro-manif pour tous. Il y a toujours des liens dans ces gens-là. Hein. Quand on retrouve les anti-vax, etc., ils ont souvent des liens sur cette sphère-là, anti-avortement, pro-manif pour tous, etc. Et ce documentaire part de la critique de la gestion catastrophique de la pandémie, ce qui est vrai, par le gouvernement, pour glisser vers une explication complotiste de l'épidémie. Un complot aurait créé donc ce virus pour tuer la moitié de l'humanité et soumettre les survivantes et les survivantes. Donc voilà, Hold Up développe une vision du monde qui ne laisse pas de place à la contradiction. Pourtant, les interviews sont sorties de leur contexte. Le travail d'enquête est invisible. Les enchaînements rapides créent des liens artificiels entre les événements. Et on observe à travers ce film les mécanismes propres au conspirationnisme, la critique de l'État, des médias, de l'industrie pharmaceutique, qui est instrumentalisée pour imposer une vision du monde totalitaire, celle d'un complot mondial pour expliquer les événements politiques et les phénomènes sociaux, donc enlevant tout aspect de lutte de classe. Mais il y a aussi du coup des scientifiques, parce que forcément, ils s'appuient aussi sur des gens qui se disent spécialistes de ça et de ça et de ça pour appuyer leur argument. Il faut savoir qu'en France, je crois qu'il y a environ 250 000 chercheurs et chercheuses et qu'il y a une infime minorité qui se pose contre les vaccins ou contre certaines mesures. Parmi ces scientifiques, vous en connaissez sûrement certains, Didier Raoult, figure centrale du mouvement complotiste. Alors il se définit pas comme ça lui, mais en tout cas il est pris par exemple par tout ce mouvement. Il défend l'hydroxychloroquine, alors même que le médicament est inefficace contre la Covid. Il y a aussi Gérard Delépine, qui est chirurgien à la retraite, anti-confinement, anti-vaccin, auteur entre autres d'une tribune sur France Soir, intitulée « Rien à craindre du variant Delta, merci ». Il donne le rhume curable par traitement précoce. Merci donc pour tous les mortes et les morts de ce virus. Christian Perron, professeur de médecine, démis de son poste de chef de service de la PHP quand même. Selon lui, on n'utilise pas de l'hydrochloroquine car les réanimations auraient un intérêt financier à garder des patients, bien évidemment quand il y avait la queue et quand il y avait du monde, c'est sûr. Alexandra Henrion-Caude, généticienne, pour qui les tests PCR visent à introduire des nanoparticules dans le cerveau. Et Luc Montagnier, par exemple, biologiste et prix Nobel de médecine anti-vaccin, qui selon lui, la vaccination serait responsable de l'apparition de nouveaux variants et d'une hausse de la mortalité. On peut rajouter des gens aussi qui étaient là-dedans, le professeur Fouché, là, qui a été aussi viré de l'hôpital de Marseille, et encore bien d'autres personnes qui font le buzz là-dessus. Cette tribune, du coup, on va peut-être bientôt arrêter, mais du coup, voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce site-là. Ils font aussi un petit focus sur Info Covid, cette vitrine pseudo-scientifique de l'extrême droite. Et ils reparlent aussi, du coup, forcément du Rassemblement National, du rôle des plateformes là-dedans, qui laissent une liberté totale à tous les racistes et à tous les complotistes. Et ce complotiste est très dangereux parce que, du coup, il sert de pont entre l'extrême droite et la population. Parce qu'il serait faux de dire que la totalité des manifestants et manifestantes anti-vax sont des militants d'extrême droite. Néanmoins, l'idéologie d'extrême droite, elle exerce une emprise sur le mouvement anti-vax. Le complotisme semble être un point qui fait traverser les idées de l'extrême droite aux personnes sceptiques quant à la vaccination. Et ainsi, celles-ci vont, sans avoir reconnu la patte de l'extrême droite, publier sur les réseaux sociaux, diffuser des tweets, des vidéos, des chaînes WhatsApp, des messages émanant de l'extrême droite. Elles vont également reprendre en manifestant le langage de l'extrême droite, dictature sanitaire, apartheid, éveillez-vous, liberté, liberté, tyrannie démocratique, ainsi que leurs symboles, rose blanche, étoile jaune, et elles propagent sans le vouloir la vision du monde de l'extrême droite. Donc on vous incite à aller voir du coup cette petite brochure qui est vachement bien faite par Sud Éducation, par rapport à ce qui peut se passer dans la rue en ce moment, les dangers qui rôdent, et du coup un peu le contre-argumentaire qu'on peut avoir. Et ils reviennent aussi forcément sur la banalisation inacceptable de l'antisémitisme qui est ressortie dans cette manif et qui devient vraiment horrible dans ces mobilisations. Donc voilà pour cette petite page sur le mouvement anti-pass. Il y aura de toute façon des mobilisations syndicales aussi également très bientôt. Je crois que le 14 septembre, mardi, appelé par l'Union départementale, l'Union Action Santé Action Sociale de la CGT et de Solidaires, Solidaires Sud Santé Sociaux, parce que du coup le lendemain, le 15 septembre, vont commencer les sanctions pour les personnes qui ont refusé de se faire vacciner, car obligation vaccinale dans le secteur de la santé, dans le secteur médico-social, avec du coup suspension du salaire. Et ils ont avec un mois pour se mettre un petit peu aux normes. Donc voilà, je vous laisse la parole. Je pense qu'on va pas refaire de pause musicale.
Non,
on a bien avancé là.
Oui, il y avait beaucoup de choses à dire. On aura juste deux trois luttes, mais c'est des anciennes puisque le mois de septembre là, c'était un peu mou dans la recherche des luttes sociales. Ça, c'est le mois qui débute. J'ai fait tout le mois d'août. J'avais fait le mois de juillet. J'avais pas fait le mois de juin, dis donc. Bon, ben on va en reparler. C'est pas grave. C'est toujours d'actualité de toute façon. Et on va aller à Lyon, mais Lyon-Saint-Aulas avec Saint-Exupéry Aéroporte. C'était donc au mois de juin que les salariés agents de APMR, c'est l'aide à la personne à mobilité réduite, ont choisi donc de se mettre en grève. La grève pour tout bagage de pression contre le licenciement de 8 de leurs collègues. La société qui les emploie, c'est 3S, proprio du service au 1er juin. Licenciement qui concerne les postes de régulateur de l'aide, donc c'est la répartition aux personnes handicapées, tâches qui seront confiées désormais, si la truc a réussi, au personnel de Saint-Exupéry Aéroport de Lyon, dont l'actionnaire number one est Vinci. Donc ce 2-06, début juin, un rassemblement au tribunal de commerce de Lyon. À Lyon encore, donc c'est le rectorat qui a été assiégé gentiment par les accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Donc on en a parlé tout à l'heure, les AESH.
C'est pas arrangé.
300 personnes, c'était en début donc de juin, aux portes donc du rectorat. Pour cette journée d'action nationale, ils dénonçaient leur situation au sein des établissements d'éducation, leur salaire, 825 euros mensuels, des déplacements d'établissement en établissement. Alors, je faisais un rappel que nos gouvernants ont décrété depuis des années le handicap cause nationale. Voilà, c'était
merci
un petit
beaucoup,
rappel.
Ouais.
Et puis, à Val-de-Reuil, dans l'Eure, je prends un peu au hasard, comme ça, début juin, une propriété donc, du groupe Fareva, industriel pharmaceutique, et je veux parler de Val-de-Farm, la société Val-de-Farm, salariés en colère, et la CGT, pour le coup, mobilisée pour une répartition égalitaire des profits. Ouh là là, le doux rêve. Vaste programme, donc, ajouté aussi à une hausse salariale. La colère n'est pas symbolique, la direction avait promis des primes en pagaille, le mot n'est pas vain, puisque ça l'a été, la pagaille. Primes, vacances, transport d'équipe, etc. Nada, rien que dalle, en fait, au bout du compte. Trois autres sites ont suivi l'appel de la CGT, de FO et de Sud. À noter que ce labo de 578 salariés plus les intérimaires doit participer à la sortie, à la fabrication d'un vaccin allemand contre le Covid, le CureVac, c'est son nom. Quand il y a des pépettes à toucher, il n'y a plus de frontières. Dénoncé par 170 salariés aux portes du site. Et puis pour terminer, là, je te laisse après le micro pour la suite. À Foix, en Ariège, c'était le 4 juin. Nous sommes avec les salariés de l'association Information Prévention Addiction de l'Ariège. En plus court, ça fait l'AIPD, mobilisés car en colère contre un non-remplacement de leur médecin qui était embauché en CDD de 6 mois et non renouvelé, donc le contrat non renouvelé. Une manifestation était prévue, mais la gentille préfecture a refusé. La grève persistait, tenait bon pour dénoncer d'autres dysfonctionnements dans cette association. Voilà. Toi le micro.
Oui, du coup, on va finir tranquillement sur les 5 petites minutes qui nous restent avec 2 petites choses et puis on rappellera un petit peu l'agenda ensuite. La première, je ne sais pas si vous avez vu ça fait partie aussi de la banalisation de l'extrême droite en cours dans notre société. Les très moches publicités sur les panneaux JC Déco qui fleurissent dans notre ville, avec la publicité pour une école qui n'est pas une école comme les autres, qui s'appelle l'ICEP, et qui est l'école de Marion Maréchal Le Pen, qui a ouvert maintenant il y a 2 ou 3 ans de mémoire, qui continue de pas trop marcher, mais qui se veut un petit peu l'école pour former les futurs cadre identitaire, futur politique, pour faire cette fameuse union des droites. Et ben cette école qui a toujours été dénoncée par beaucoup de monde, qui maintenant du coup a une visibilité sur la ville avec énormément de panneaux, donc ils ont mis les thunes, hein, parce qu'ils ont des thunes, de panneaux du coup JC Déco, où on peut voir défiler cette publicité pour l'ICEP, dont le truc c'est l'autre école des sciences politiques, tu m'étonnes que c'est une autre école. Du coup on vous invite à pas grand-chose, mais on y pense très fort par rapport à toutes ces panneaux de pub qui fleurissent malheureusement. On voulait vous parler aussi, là pour finir, vous lire le communiqué officiel du Lyon Antifa Fest. Alors si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, le Lyon Antifa Fest du coup avait mis un petit teaser pour sa prochaine édition qui aura lieu au mois de décembre. Et sur ce teaser, il y avait des extraits de concerts, etc. Notamment un extrait d'un concert, je crois qu'il datait de 2015, voilà, où des rappeurs devaient dire à peu près la chose suivante, les flics tous des bâtards, ou une connerie comme ça. Et donc du coup, Monsieur Wauquiez, notre cher président de région, a sauté sur cette occasion pour, comme ça, unilatéralement, sucrer une subvention au CCO de Villeurbanne. 45 000 euros. Le CCO, donc c'est cette salle là qui est située à Villeurbanne, là, vers l'Adois, et qui accueille, qui héberge énormément de concerts durant l'année, et aussi plein d'activités culturelles, sociales. Il faut savoir que le CCO signe juste une convention avec l'association qui gère le Lyon Antifa Fest, n'intervient pas dans le contenu, et ne reçoit pas de subvention pour organiser ce concert-là, mais uniquement signe une convention, et c'est tout. Donc on va vous lire, parce que du coup, derrière, le CCO se retrouve bien emmerdé par rapport à cette perte de subvention. Laurent Wauquiez fait un coup politique et les personnes qui organisent le festival se retrouvent dans une situation très délicate. Donc ils ont quand même écrit un communiqué et je vais vous le lire. Donc au cœur de la polémique de ces dernières 48 heures, notre vidéo promotionnelle a été retirée des réseaux sociaux. Le CCO, salle qui accueille notre festival depuis ses débuts, s'est vu menacé, dont acte par le président de région Laurent Wauquiez, de la suppression des subventions qui lui étaient allouées. Nous ne pouvons que condamner cette décision arbitraire à l'encontre du CCO. Si les propos tenus dans cette vidéo agitent et offensent la sphère politique, le CCO n'en saurait en aucune façon être tenu pour responsable. Nous ne pouvons au contraire que nous interroger quant au dessein politique qui anime cette décision à l'approche des futures élections. Lorsqu'il nous est reproché de troubler l'ordre public, nous rappelons qu'aucun incident n'est à déplorer sur notre festival au cours de ces 7 éditions, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle. En revanche, cette même salle a subi en 2019 des menaces et une attaque avec tentative d'incendie afin de la dissuader de nous accueillir. Nos politiques sont alors restés muets quant au caractère gravissime de ces actes et leurs acteurs dans un contexte pourtant toujours plus sécuritaire. L'entièreté de notre organisation repose sur une parfaite légalité. SACEM, agent de sécurité, respect de toutes les autorisations, et nous nous interrogeons contre la fermeté annoncée à notre rencontre et notre appel supposé à la haine, lorsqu'en parallèle, les locaux d'organismes dissous par le gouvernement, génération identitaire, ont encore pignon sur rue au sein même de notre ville. Nous tenons à rappeler que nous sommes un festival autogéré et non subventionné, contrairement aux propos mensongers actuellement diffusés, parce que le lien est fait entre la subvention donnée au CCO et ce festival, et nous prononçons contre toutes les discriminations de classe, de genre et de race, toutes les violences homophobes, transphobes, sexistes, fascistes et capitalistes, et contre tous les systèmes d'oppression et de répression. L'extrait utilisé afin de nous nuire est un habile procédé d'opposition politique car aucune violence n'y était réclamée. Nous demandons que cesse l'acharnement politico-médiatique à notre rencontre ainsi que les pressions subies par la structure culturelle et nécessaire qu'est le CCO. Nous constatons qu'il reste facile de s'attaquer à des minorités ou à des petites associations quand d'autres, condamnés pour incitation à la haine, continuent de sévir sur des plateaux télé ou des magazines également subventionnés. La liberté d'expression comme la liberté de création artistique doivent demeurer des phares contre l'obscurantisme. Nous continuerons à défendre le vivre tout ensemble, la multiculturalité, et nous ne cesserons de dénoncer toutes les formes de discrimination et d'oppression. On suivra un petit peu ce qui se passe de près par rapport au CCO et par rapport à ce festival, du coup menacé par la seule décision de Laurent Wauquiez, qui, comme on ne parle pas trop de lui, il décide de faire un truc de merde, et il le fait. Très rapidement, on vous rappelle les annonces. Allez voir sur Rebellion pour tout ce qui concerne le week-end de commémoration pour y dire, mort le 9 septembre 2020 à la prison de Corba, sur la projection discussion du collectif Justice et Vérité pour Wissam à l'atelier des Canulars. Et nous vous donnons rendez-vous ce samedi 15h pour un rassemblement place de la Comédie en solidarité avec les Afghanes et les Afghans et tous et toutes les réfugiées. S'en suivra du coup après ce rassemblement, la tenue d'une petite permanence dans notre librairie au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse.
Où nous vous y invitons.
Exactement.
Voilà, donc c'est terminé là pour ce soir.
Bah, 21h pile.
Pour cette émission, je crois que je vais... Oui, enfin, pour cette émission. On vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Il y aura une autre émission, sans nul doute, donc à 20h jusqu'à 21h. Voilà, et on vous souhaite une bonne semaine, évidemment.
Ouais. À
Allez,
bientôt.
Avec le générique de fin. Salut.